Commencer une série sur d'études la parole de Dieu sur la vie de Moïse. Et on voudrait continuer cette série avec aujourd'hui la foi de Moïse ou le choix de la foi. Et j'aimerais qu'on lise ces deux textes en Exode chapitre 2, le verset 11 à 22, et puis en Hébreu, au chapitre 11, les versets 24 à 26. Exode chapitre 2. En ce temps-là, verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères. Et il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici celui qui avait deux Hébreux se querellait. Et il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement, la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait sept filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent des auges pour abreuver leur troupeau, le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et il fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Et elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Guershom, car, dit-il, « J'habite un pays étranger. » Et puis encore en Hébreux chapitre 11, les versets 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Jusqu'ici, la parole de Dieu. La vie est faite de décisions. Certaines sont simples et de moindre importance. D'autres sont plus complexes et extrêmement importantes. Beaucoup sont prises inconsciemment ou presque. D'autres exigent une réflexion sérieuse. Le cours et la qualité de notre vie dépendent bien plus de nos décisions que de nos circonstances. Vivre en disciple de Christ suppose que nous prenions les bonnes décisions. Et on reconnaît la maturité d'un chrétien aux décisions qu'il prend. Les décisions les plus difficiles sont celles qui sont aussi les plus lourdes de conséquences. Quand on n'a rien à perdre, les choix sont plus faciles. Par contre, les choix qui engagent votre carrière professionnelle, les choix qui engagent votre vie de couple, les choix qui engagent votre vie de famille, les choix qui engagent des enjeux financiers importants, nécessite une attention toute particulière. Parce que nos décisions, elles ont des conséquences. Elles doivent être prises parfois rapidement, ces décisions. Les décisions... on a juste un laps de temps pour les prendre. Je pense aux sages-femmes, par exemple. L'enfant naissait, il fallait décider, on le laisse vivre ou on ne le laisse pas vivre. Qu'est-ce qu'on dit à Pharaon? Il fallait intervenir immédiatement. Et ces femmes qui craignaient Dieu ont accepté de laisser vivre ses enfants. Lorsque Jochebed et Amram, les parents de Moïse, se sont retrouvés avec le petit enfant, ils disent, qu'est-ce qu'on en fait? Pharaon nous demande de jeter ses enfants au fleuve. Qu'est-ce qu'on fait? Il ne fallait pas réfléchir trop longtemps. Ils l'ont caché. Ils l'ont caché jusqu'au moment où ils ne pouvaient plus. Et Jochebed a dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on peut le confier au fleuve? Et elle a pris ses décisions. Les Grecs de l'Antiquité avaient une statue dont le nom signifiait « opportunité ». Cette statue était bizarrement faite. Sur le devant de la statue, elle avait la femme avait des cheveux ondulants comme cela. Et puis derrière sa tête, le crâne était complètement rasé. Et ça symbolisait au fond que nous pouvons saisir une opportunité lorsqu'elle se présente à nous. Mais qu'une fois qu'elle est passée, nous ne pouvons plus la saisir. Et c'est ce qui donne à nos décisions un côté tellement crucial et tellement important. Moïse a fait des choix. Et Hébreux 11 nous dit clairement qu'il a fait des choix par la foi. La foi, c'est accepter de ne pas porter son attention sur ce que l'on voit, mais porter toute notre attention sur ce que l'on ne voit pas. D'ailleurs, tous les personnages qui sont cités comme héros de la foi dans le chapitre 11 aux Hébreux ont démontré leur foi par leur choix, par leur décision. Et c'est donc leur foi qui a déterminé leur décision. Et c'est aussi de cette façon que nous devons apprendre à faire nos propres choix, c'est-à-dire par la foi, en fonction des choses que l'on ne voit pas. J'aimerais regarder ce matin avec vous que la foi regarde comme meilleur d'être du côté de Dieu. On verra ensuite que la foi discerne le plan de Dieu et enfin que la foi considère toute chose à la lumière de l'éternité. La Bible dit ici, Moïse devenu grand. Moïse est devenu grand, c'est l'expression qui est donnée en hébreu et aussi en exode. Moïse est devenu grand. Certains exégètes pensent que Moïse avait été nourri et élevé par sa mère Jochebed jusqu'à l'âge de 12 ans et que seulement ensuite il est parti pour la cour de Pharaon pour recevoir son instruction. Je trouve ça, cette pensée intéressante. Ça signifie que Moïse a reçu toute son instruction spirituelle, si on peut dire, jusqu'à l'âge de 12 ans. Le proverbe 22, verset 6, dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Maintenant, Moïse, selon le livre des Actes, chapitre 7, il nous est dit qu'il avait 40 ans lorsqu'il a pris à cœur d'aller visiter ses frères. 40 ans, c'est grand ça déjà. Il était éduqué. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Ça, c'est ce que dit Actes chapitre 7, verset 22. Il était puissant en parole et en œuvre. Il faut comprendre que l'Égypte de l'époque, l'Égypte que connut Moïse, c'était l'empire le plus riche et le plus puissant de son époque. Avec des écoles, un développement artistique extraordinaire, la peinture, la littérature, la musique, la sculpture, avec l'architecture extraordinaire, avec des temples et des pyramides qui sont encore debout après aujourd'hui et qui datent de 4000 ou 5000 ans. On a des hypothèses sur comment ils ont sorti ces pierres, ces énormes pierres du sol. On a des idées comme cela, comment ils les ont pu les transporter. On a aussi quelques idées peut-être sur la manière dont ils ont réussi à monter ces pierres. Mais on n'est sûr de rien et on serait incapable de refaire les mêmes choses. Pour dire la sagesse des Égyptiens, des blocs de pierre de 10 ou 20 tonnes montés à des hauteurs incroyables. L'Égypte savait travailler la faïence et le verre. Il existait des écoles de médecine, de construction navale, de mathématiques. Les Égyptiens étaient extrêmement forts et développés en matière d'agriculture. Ils étaient des champions au niveau de l'irrigation à cause de la mousson du Nil. Ils étaient aussi extrêmement doués dans l'extraction des minerais. Et Moïse, en raison de sa position de fils de la fille de Pharaon, avait accès à toute cette science. Et il semble qu'il les maîtrisait, puisqu'Étienne rapporte en acte qu'il était devenu puissant en parole et en œuvre. Il avait reçu une éducation. Il avait acquis une autorité dans ces domaines. Il était honoré, il jouissait d'une reconnaissance nationale, d'une position de prince. Et c'est à ce moment-là, acte 7, verset 23, qu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Exode 2, 11 dit, « Il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il a pris garde à la manière dont on traitait son peuple. Il a remarqué la charge énorme, colossale de travail dont on les accablait, en plus de pourvoir à leurs propres besoins. » L'idée égyptienne à l'époque, l'idée de Pharaon, c'était d'affaiblir leur nombre. C'était d'accabler ce peuple jusqu'à la mort par ses travaux. Au point qu'ils rendirent la vie des Hébreux amère. En Exode 1,14, il est dit « Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. » Et c'est, écoutez bien, avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Imaginez la situation. Moïse, maintenant, connaît parfaitement les deux tableaux. Comme le fils adoptif de la fille de Pharaon, il pouvait prétendre à une place parmi l'élite de la société, peut-être successeur de Pharaon. Cependant, un sang meilleur coulait dans ses veines. Il était membre du peuple de Dieu. Il était hébreu, fils d'Israël, membre du peuple de Dieu sur la terre. Porteur de ce titre de noblesse, il ne pouvait pas descendre au niveau de la royauté égyptienne. Et Moïse s'est trouvé devant ce choix. Jouir de la gloire de l'Égypte, ou bien prendre parti pour ses frères. Poursuivre une vie prestigieuse et jouir de tout ce que l'Égypte pouvait offrir, et peut-être même finir en momie au Louvre ou au British Museum, ou bien se joindre à son propre peuple et connaître la condition d'esclave. Du point de vue du monde, le choix de Moïse, c'était sacrifier tout pour rien. C'était ça le tableau. Tu sacrifies tout et tu n'as plus rien. Et pourtant, la Bible dit qu'il a fait son choix par la foi. Il pensait que c'était meilleur de vivre en accord avec la justice et avec son Dieu, qu'avec toute la gloire des hommes. Moïse a choisi par la foi le meilleur. Le meilleur. Ce que le monde estime comme grand n'a rien à voir avec ce que Dieu considère comme grand. L'homme considère à ce qui frappe les yeux. L'Éternel regarde au cœur. Dieu, dans le Nouveau Testament, a parlé d'un homme extraordinaire. Il a dit qu'il était plus grand que tous ceux qui l'ont précédé. C'était Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste se nourrissait de miel et de sauterelles. Il était vêtu d'une tunique. Il n'avait rien, il habitait le désert. Mais Dieu a dit, cet homme-là, il a vraiment choisi la meilleure part. Je ne suis pas en train de dire que vous devez abandonner vos études, que vous devez abandonner vos titres, votre position, votre fortune. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que vous devriez regarder la vie avec Christ comme meilleure que tout cela. De sorte que jour où il y a un choix à faire, vous n'hésitiez pas. Comment faisons-nous nos choix ? Souvent, je choisis ce qui me coûte le moins. Je choisis ce qui me coûte le moins d'argent, ce qui me coûte le moins d'efforts, ce qui me coûte le moins de temps. Time is money. Ou bien est-ce que je choisis le côté où Dieu est? Est-ce que je choisis là où la justice de Dieu demeurera? Là où la paix de Dieu demeure? Là où l'amour de Christ demeure? Vous êtes devant un choix. Peut-être que dans ce choix, ça crée une tension. Qu'est-ce que vous choisissez? Ce qui vous coûte le moins? Ou ce qui procure le plus de paix, de justice, d'amour, dans votre vie professionnelle, familiale, dans votre couple, dans votre église? C'est cela le meilleur. Et c'est cela, faire ses choix par la foi. La foi aussi discerne le plan de Dieu. Et j'aimerais qu'on regarde un autre passage qui nous rapporte ces événements. C'est Actes chapitre 7, le verset 25. Regardez, il dit ici, « Moïse pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. » Moïse, il considéra sa vie et il a réalisé, « Je suis un Hébreu. J'ai échappé à la mort des jeunes garçons programmés à la naissance grâce au courage et à la décision extraordinaire de ces sages-femmes qui craignaient Dieu. J'ai échappé à la mort grâce à la foi de mes parents, lorsque Pharaon ordonna qu'on jette tout jeune hébreu au fleuve. J'ai été merveilleusement préservé sur les eaux du Nil, lorsque ma mère m'a déposé dans cette caisse de jonc. J'ai été recueilli et adopté miraculeusement par la fille même de Pharaon. Et finalement, j'ai même été confié à ma propre mère pour être nourri. Et cela sous la protection de Pharaon lui-même. Enfin, j'ai reçu la meilleure éducation au monde. Et Moïse s'est dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant de tout cela ? Seigneur, est-ce que tu as fait tout cela pour que je puisse encore construire des temples aux Égyptiens? Est-ce que tu as permis tout ça et tu as permis que je sois arrivé à cette situation pour que je puisse encore construire un sphinx ou une pyramide de plus? Ou est-ce que tu as un autre plan pour moi? Est-ce que tu as fait tout ça pour moi, pour que j'aie une belle place au soleil? Ou bien est-ce que tu as un plan pour toi? Un plan pour que je te serve, que je te glorifie? Est-ce que tu as un plan plus grand que mon confort personnel, mon bonheur personnel? Ou est-ce que c'est pour moi que tu as fait tout cela? Ou bien est-ce que tu as une raison meilleure? Je pense à ce passage du livre d'Esther. Ne le cherchez pas, je vais vous le lire. Mais c'est tellement similaire. Écoutez ça. En Esther, chapitre 4, verset 13. Mardoché fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. À ce moment-là, il y avait une menace de génocide sur tout Israël. Parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et ta maison et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther, qui était une jeune juive, envoya dire à Mardoché son oncle, « Va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi qui interdisait de se présenter devant le roi sans y être invité. Et si je dois périr, je périrai. C'est merveilleux. Voilà cette jeune femme, rendue comme Moïse. Tous les deux juifs, tous les deux, ils peuvent sauver leur peuple. Tous les deux, ils ont été miraculeusement placés à la cour du roi qui les oppresse. Et Moïse, tout comme Esther, a reconnu que Dieu avait un plan pour son peuple et que lui, Moïse, devait y jouer un rôle. C'est tellement évident pour lui qu'il pensait que ça l'était aussi pour ses frères, et quand il est venu tuer l'Égyptien, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne le comprirent pas. Moïse prend courageusement à cœur la cause du peuple de Dieu. Chapitre 11 des Hébreux annonce clairement qu'il a agi par la foi, délaissant volontairement les honneurs, les richesses, les plaisirs dus à son rang à la cour d'Égypte, et étant convaincu qu'Israël était vraiment le peuple de Dieu. Moïse était prêt non seulement à prendre tous les risques, mais aussi à souffrir pour cette population, parce qu'il comprenait que Dieu le préparait pour délivrer son peuple. Dieu avait un plan pour Moïse, pour délivrer l'Israël, de la même manière que Dieu avait un plan pour Joseph, quelques siècles plus tôt, pour délivrer Israël, de la même manière que Dieu avait un plan pour Esther, quand il a délivré Israël, quelques siècles plus tard. Dieu a un plan. Il a un plan pour chacune de nos vies. Et son plan, c'est le même. Sauver le monde. Sauver les pécheurs. Sauver d'une mort certaine. Alors comment prenons-nous nos décisions? Est-ce que nous choisissons du moment que c'est bien pour moi? Ou voyons-nous que Dieu nous a donné des talents, Dieu nous a donné des moyens, Dieu nous a donné des qualités, Dieu nous a fait passer par toutes sortes d'expériences pour servir les autres. Est-ce que nous pensons être au centre du plan de Dieu? Ou est-ce que c'est Dieu qui est au centre de son propre plan? Et les autres au centre du plan de Dieu? Et nous sommes simplement un instrument de Dieu pour glorifier Dieu, pour manifester son amour, sa grâce, sa miséricorde, pour que d'autres apprennent à le connaître. Voilà comment Moïse a pris ses décisions. Par la foi, il discernait le plan de Dieu. Enfin, la foi considère toute chose à la lumière de l'éternité. En Hébreux, au chapitre 11, verset 25, il est dit qu'il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Pour un temps, nous pouvons avoir la jouissance du péché. Pour un temps, nous pouvons avoir une vie paisible, tranquille. Pour un temps, nous pouvons avoir quelques joies dans ce monde. Mais la vraie foi, elle apprécie toutes choses à leur véritable valeur. La foi nous fait vivre comme nous aimerions avoir vécu le jour où nous comparaîtrons devant Dieu, quelles qu'en soient les conséquences immédiates. Moïse s'est vu devant le tribunal de Christ, répondant de sa propre vie. Moïse, tu as vu l'injustice qui était faite à mon peuple? Moïse, tu as vu la cruauté avec laquelle les Égyptiens traitaient mon peuple? Moïse, toi, tu étais prince d'Égypte et tu n'as rien fait? Tu n'as rien dit le jour où l'on outrageait un de tes frères devant toi. Tu avais la possibilité de prendre sa défense et tu n'as rien fait. Une telle perspective était pour Moïse insupportable. Il voulait pouvoir vivre sa vie comme il aurait voulu l'avoir vécue le jour où il comparaîtra devant son Dieu, devant son Créateur. Alors Moïse est intervenu et il s'est opposé à cette injustice. Il a tué l'Égyptien et il l'a caché. Le meurtre de l'Égyptien n'était peut-être pas trop judicieux. En tout cas, son zèle dépassa sa discrétion. Un jour, Dieu utiliserait Moïse dans le but de délivrer son peuple. Mais le moment n'était pas encore venu, mais il devait d'abord passer 40 ans à étudier à l'école de Dieu au milieu du désert. Mais une chose est certaine, c'est que la décision de servir Dieu et de vivre pour lui, il l'a prise ce jour-là. J'ai reçu une lettre d'un jeune hier soir, un jeune qui a choisi de servir le Seigneur. Il établissait des prix pour une des plus grosses entreprises du bâtiment en France. Il était là en train de... Voilà, il connaissait le Seigneur. Et puis, il est venu à La Rochelle pour une réunion d'évangélisation et puis de service avec Lève-toi. Et puis là, il y avait un message sur l'appel au ministère. Ce jour-là, il s'est levé. Il a dit, c'est bon, pour moi, je sais, ma vie, c'est servir Christ. Vous savez quoi ? Deux semaines plus tard, il perdait son emploi. Rien ne le laissait présager de ça. Deux semaines plus tard, il avait commencé à chercher immédiatement après cette levée. Il s'est dit, mais maintenant, comment est-ce que je vais pouvoir me former ? Il a cherché par correspondance, il a cherché toutes sortes de moyens. Deux semaines plus tard, il avait les moyens de le faire, financiers, et puis il avait tout le temps pour le faire. Maintenant, il est en institut biblique, il se forme pour le service du Seigneur. Il doit passer quelques années, peut-être pas 40 ans comme Moïse, mais il passe par une école maintenant. Mais sa décision, il l'a prise bien avant. Celle de Moïse, c'était ce jour-là. Le jour où il a tué l'Égyptien, c'était le jour où il grillait les ponts derrière lui. Il disait, c'est fini maintenant. Je ne pourrai plus régner sur Israël. Je ne pourrai plus avoir ma place en Égypte, pardon. Et maintenant, je vais servir pour mon peuple. Je vais servir mon Dieu. Il a fait ce choix. Il a pris cette décision parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il savait qu'il pouvait tout perdre, qu'il allait tout perdre, mais qu'il allait remporter bien plus encore. Quand il sortit le jour suivant, Moïse essaya de résoudre une autre injustice. Il veut vivre pour Dieu maintenant. Et là, il voit une injustice encore, une dispute entre eux, cette fois-ci deux Hébreux qui se crêpent le chignon. Alors il intervient, il les exhorte à la paix, à la réconciliation, mais il rejette sa direction, tout comme les Hébreux allaient plus tard rejeter celui qui était plus grand que Moïse. Conscient qu'il savait qu'il avait tué l'Égyptien, Moïse fut pris de panique. Quand Pharaon apprit le meurtre, il chercha à tuer Moïse. Et Moïse s'enfuit pour cette raison dans le pays de Madian. Madian, c'est cet endroit à l'est du bras est là, de la mer Rouge. C'est l'Arabie. Et Madian, c'est un fils de Abraham et de Keturah, la deuxième épouse d'Abraham. Et donc, ce sont des descendants qui connaissaient la foi d'Abraham, qui aimaient l'Éternel. Et il va se retrouver là-bas, et puis il est desséché, assoiffé, il boit un puits, et à nouveau là, nouvelle injustice. Nouvelle injustice! Des jeunes femmes, là, font boire le troupeau de leur père. Et puis des bergers indélicats se pointent, les chassent. Moïse, il ne supporte pas ça. Alors, il se lève. Il prend encore le risque. Ils sont plusieurs, il est tout seul. Mais il ne supporte plus l'injustice. Vous voyez, toute sa vie, elle est vécue avec l'éclairage de l'éternité. Il veut pouvoir se tenir devant son Dieu au jour du jugement en ayant eu la vie qu'il devait avoir. Moïse a été béni. Dans la première décision qu'il a prise, il a tout perdu. Il a perdu l'Égypte, il a perdu l'affection certainement de Pharaon et de la fille de Pharaon, sa mère adoptive. Il a tout perdu. Mais dans la deuxième injustice qu'il a cherché à régler, il a gagné un foyer, il a gagné une épouse, Séphora, il a gagné un fils, il a gagné un beau-père qui l'aimait, Jéthro, Réuel. Moïse agissait par la foi. Il faisait ce qui est juste de faire. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est-à-dire, il savait qu'un jour, il devrait rendre des comptes pour sa vie. Et il voulait être rémunéré convenablement. Vivre dans la perspective de l'éternité, c'est vivre comme voyant l'invisible. C'est vivre avec cette assurance, un jour, la justice triomphe. Comment faisons-nous nos choix? Est-ce qu'on fait nos choix sur l'opportunité du jour? Le bonheur immédiat qui nous est proposé, la jouissance immédiate qui nous est proposée, ou est-ce que nos regards se portent bien plus loin, jusqu'au tribunal de Christ où nous comparaîtrons et devrons rendre compte de nos vies? Ah, comment nourrir notre foi? Moïse a pris des bonnes décisions parce qu'il avait une foi bien centrée sur la personne de Christ. La suite de l'Épître aux Hébreux dit au verset 2, c'était le verset qui était affiché tout à l'heure, « Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. C'est magnifique. On se demande parfois, mais comment est-ce que je pourrais avoir une telle foi comme celle de Moïse ou d'Esther ? Ayez les regards fixés sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Dans le passage de l'Épître aux Hébreux, l'auteur aux Hébreux dit que Moïse regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Ça, c'est le verset 26. Mais Moïse, il a vécu 1500 ans avant Christ. Et la Bible dit, il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande. Comment est-ce possible? Moïse regardait au Messie qui lui aussi devrait renoncer à une gloire. Une gloire plus grande encore. La gloire du ciel. La gloire d'un univers où tout lui rend hommage. La gloire d'un lieu où le péché n'a pas cours, où tout est justice, sainteté, beauté. Il a quitté ce royaume-là et il s'est identifié à un peuple plus misérable encore que les Hébreux en Égypte, un peuple esclave. Mais esclave d'un empire encore plus puissant que celui de l'Égypte, esclave du péché, esclave de l'injustice, de la méchanceté qui domine sur les cœurs. Jésus-Christ a quitté sa gloire et il est venu habiter, s'identifier à des pécheurs tels que nous. Et il a accepté également d'être rejeté par les siens. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ce que nous sommes, des enfants de Dieu par la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ crucifié pour nous. Christ a accepté notre mort, il a accepté notre condition pour que nous puissions connaître la sienne et connaître son royaume éternel, le ciel. Si nous voulons prendre nos décisions comme Moïse, nous devons également porter nos regards comme Moïse sur la personne de Jésus-Christ. Peut-être que quelqu'un dira aujourd'hui, mais moi, J'avais même jamais vu les choses comme ça. J'avais jamais vu que j'avais des choix à faire par rapport à mon éternité. J'avais jamais vu que j'étais en mesure de prendre une décision par la foi, non pas en regardant aux choses d'ici-bas, mais en regardant à celles qu'on ne voit pas, à celles qui sont pourtant certaines, celles qui sont éternelles. Un rendez-vous avec Dieu. Peut-être vous avez, comme Moïse, vu le plan de Dieu dans votre vie. Vous voyez comment il a travaillé, comment il vous a conduit ce matin ici, non pas par hasard, mais parce qu'il avait un rendez-vous avec vous, parce qu'il vous place aussi devant un choix, choisir la vie d'être avec Christ, de le servir et de le glorifier. Peut-être vous avez des craintes. Peut-être c'est un choix extrêmement coûteux. Regardez à Jésus-Christ. Moïse a fait le bon choix parce qu'il regardait à Jésus-Christ.